un phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
On est le mercredi 29 mai, il est 19h05 et c'est le début de ce Canu Info du mercredi. On va commencer avec un petit texte qui va faire un retour sur le génocide de rwandais.
Et après cette actualité brûlante d'il y a 19 ans, on va se réintéresser à des choses un petit peu plus récentes, comme à Lyon, l'expulsion du gymnase où étaient relogées les familles suite à l'incendie d'un squat.
Ensuite, on poursuivra plus ou moins sur cette même thématique en apprenant que le progrès balance les lieux de vie des Roms à Lyon.
Et puis on aura un reportage sur une manifestation aujourd'hui de travailleuses du sexe.
Ensuite, on aura plusieurs brèves au sein d'un Focus à Sache.
Et puis, ça sera l'heure de la météo et de l'agenda. Alors, encore une fois, je vais lire un article que j'ai trouvé sur Internet, qui est un article de cette journaliste belge Colette Breckman, qui a été une des toutes premières journalistes à avoir fait sérieusement son boulot au moment du génocide rwandais, c'est-à-dire à avoir autre chose qu'une sorte de pseudo-analyse, comme ça se faisait énormément à l'époque, en 94, pseudo-analyse qui était un peu, qu'on trouvait un peu dans l'ensemble des médias, et qui disait, de toute façon, c'est des Africains, il y a des tribus qui s'entretuent, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Donc Colette Breckman, elle faisait vraiment autre chose. Depuis, elle continue à traîner ses guêtres entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kivu en particulier. Et là, elle nous pond un article qui s'appelle « Un an avant le génocide, que savait-on à propos du Rwanda ?» 19 ans après, a-t-on réellement compris ce que fut le génocide au Rwanda ou l'a-t-on déjà oublié ? Lorsque l'on voit le président tanzanien Jakaya Kikwete enjoindre son homologue rwandais Paul Kagame d'entamer des négociations avec les FDLR, on peut se demander si la Tanzanie est bien informée du fait que ce mouvement armé, le FDLR donc, qui sème la terreur et la désolation au Kivu, est l'héritier direct des chefs politiques et militaires qui, au lendemain de la victoire du FPR en juillet 94, se réfugièrent dans le pays voisin, donc à l'époque le Zaïre, qui est maintenant le Congo, où, encadrant une population civile poussée à l'exil, ils préparèrent la revanche. Même si les forces combattantes actuelles se composent de jeunes qui étaient au berceau ou pas encore nés au moment du génocide, l'idéologie des FDLR n'a pas changé. Elle se situe dans la droite ligne du Hutu Power de l'époque. Au vu du révisionnisme ambiant, de l'ignorance ou de l'oubli qui gagne du terrain, le colloque organisé à Paris par l'association Ibuka prend tout son sens. Autour d'une question simple, un an avant le déclenchement du génocide, que savait-on ? Autrement dit, les ingrédients de la tragédie étaient-ils déjà réunis, comme du bois de feu auquel il n'aurait manqué que l'étincelle pour qu'il s'embrase ? La question demeure pertinente, non seulement pour définir mieux encore les responsabilités ou les aveuglements de l'époque, mais surtout pour confondre ceux qui, de nos jours encore, soutiennent la thèse d'une colère spontanée qui aurait été déclenchée par l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Ibuka France a donc invité historiens, juristes, journalistes, témoins à un exercice difficile. Faire abstraction de toutes les informations qui se sont accumulées depuis 1994 et convoquer, pur et dur, la seule mémoire de ces années qui précédèrent le génocide. Que voyait-on? Que savait-on? Que fit-on pour prévenir la tragédie qui s'annonçait? Les souvenirs furent accablants. L'historien Jean-Paul Chrétien analysa la vision racialiste qui caractérisait le génocide, qui caractérisait le régime rwandais depuis l'indépendance du pays, dissimulé à beaucoup d'observateurs ou tacitement accepté par les amis du régime. Léon Sor, qui occupa longtemps des fonctions politiques au sein du Parti social chrétien belge, n'hésita pas à remonter aux circonstances mêmes dans lesquelles le colonisateur belge céda les rênes du pouvoir aux représentants des plus radicaux des Hutus, consentant ou même favorisant l'exclusion, la persécution et l'exil des Tutsis. Pour lui, la matrice du génocide de 1994 se trouve dans la révolution sociale de 1959, encouragée par les Belges, et qui se traduisit alors déjà par des tueries de citoyens rwandais Tutsis, décrits comme des étrangers, des féodaux, et chassés du pays de leurs ancêtres. Quant aux Tutsis qui étaient restés au Rwanda, non seulement ils eurent à subir la discrimination, la suspicion permanente, mais ils furent transformés en otages, toute attaque des exilés Tutsis réfugiés dans les pays voisins se traduisant par la mise à mort délibérée de Tutsis de l'intérieur. Ces massacres ciblés étaient en quelque sorte une arme de dissuasion massive. Que savait-on en 93? Au vu des témoignages de l'avocat Éric Gillet et de Gassanan Doba, qui participèrent à la mission d'enquête menée au Rwanda en 92 par la Fédération internationale des droits de l'homme et par Human Rights Watch, la réponse est accablante. La société civile, les défenseurs des droits de l'homme, étaient parfaitement au courant de la mise sur pied d'une machine à tuer composée de tueurs, bien rodés, bien équipés, exécutant des ordres transmis par voie hiérarchique. En Belgique, en France et ailleurs, le pouvoir politique interpellé refusa-t-il d'entendre? Même pas, a amèrement souligné Éric Gillet. Ils étaient parfaitement au courant, les États étaient mieux informés que nous, et depuis plus longtemps. Cependant, rappelant l'existence au Rwanda d'une société civile forte, qui avait émergé depuis la fin des années 80, de partis politiques d'opposition qui se battaient pour la démocratie, plusieurs intervenants soulignèrent que si le génocide était prévisible, il n'était pas inévitable. À l'intérieur du pays, des citoyens courageux se sont efforcés jusqu'au bout de conjurer le pire. Et même pendant les 3 mois du génocide, ils se sont, au péril de leur vie, opposés à la logique de mort, qui finit par les engloutir eux aussi. Même si, présent à la réunion, Bernard Kouchner se contenta de propos assez vagues et rappela que, lui, il avait fait ce qu'il pouvait. Il était inévitable que nombre d'intervenants, à la tribune et dans la salle, rappellent le rôle de la France à l'époque et rendent un verdict accablant. À Paris, on savait, on avait choisi son camp. Ouvrant déjà la voie à d'autres exercices de mémoire, Jean-Pierre Chrétien rappela que la guerre ne prit pas fin en juillet 1994 lorsque le FPR pénétra dans Kigali et mit fin au génocide. Elle prit d'autres formes, emprunta d'autres canaux, humanitaires, diplomatiques, judiciaires, médiatiques. Cette histoire-là, celle du jour d'après, qui passe par les couloirs du TPIR et les enquêtes du juge Bruguière, reste à écrire.
Eh bien, ce matin, le gymnase Grignard, c'était le gymnase où étaient hébergées 170 personnes situées, qui étaient, pas, pardon, 170 personnes qui étaient relogées suite à l'incendie de leur squat, qui avait fait 3 morts, s'est fait expulser ce matin. Alors, c'est un peu compliqué de raconter ce qui s'est passé, parce que quand même, la préfecture s'est conduite un peu comme des salauds. En gros, hier midi, les corps des 3 personnes décédées dans l'incendie ont été rendus aux familles. Et par rendu, il faut bien comprendre que les 3 cercueils ont été déposés au milieu du gymnase, et c'est tout. Dans l'après-midi, la DDCS et la direction départementale de la cohésion sociale vient placarder sur un mur du gymnase une liste et repart aussitôt. Sur cette liste figurent les noms de celles et ceux qui auront le droit à un relogement et celles et ceux qui n'y auront pas le droit. Au total, sur les 70 personnes, 60 seront relogées et intégreront Andatou. Andatou, c'est le programme de relogement et d'acculturation, c'est comme ça qu'ils l'appellent, du préfet.
Poésie habituelle.
Exactement. Ce matin, les familles se sont donc fait expulser du gymnase, moins de 24 heures après avoir récupéré les corps, et apprendre que seule une petite partie d'entre eux auront le droit à une chance de relogement. Les critères de cette sélection sont inexistants, seul le bon vouloir du préfet compte. On sait juste qu'il ne faut jamais avoir entamé une procédure en référé liberté. C'est une procédure qui met le préfet au tribunal et le condamne à trouver une solution de relogement si la famille obtient gain de cause. A priori, les 60 places, ce ne sont pas 60 places créées ou 60 nouvelles places, ce sont des places qui devaient bénéficier d'autres familles qui squattent dans le 9e arrondissement de Lyon, à qui on avait dit qu'elles allaient être logées et qui ont appris récemment que finalement elles seront juste expulsées. On peut rajouter à tout ça que les 60 personnes seront relogés dans la caserne Rabi, qui a une capacité d'accueil de 400 personnes.
La triste routine lyonnaise, quoi.
Et ben dans la routine lyonnaise, on a notre média local qui s'appelle Le Progrès et qui a décidé de balancer les lieux de vie des Roms avec la complicité de la journaliste Sophie Majou. Alors ça vaut le coup de la citer parce qu'en plus elle est un peu connue pour être habituée des articles un peu réac et mensongers, en particulier sur les squats. Et donc voilà, ils ont eu la bonne idée de faire une carte du Grand Lyon avec les squats et campements où vivent les familles roms. Sur cette carte, on peut voir les adresses et le nombre de personnes qui vivent dans ces endroits, avec des petites précisions pour être bien sûr que n'importe qui puisse trouver où ça se trouve, genre rue machin chose, parce que nous ici on n'est pas des balances, de l'autre côté de la voie ferrée, virgule, cabane, point. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, en plus de faire que ce genre d'article peut réellement mettre quand même les familles en danger, l'article comporte de grosses erreurs. Au bout de quelques lignes, Sophie Majou écrit, là je cite, « Une occupation illégale de locaux constatée dans les 48 heures peut conduire théoriquement la police à intervenir sans passer par une décision de justice qui ordonnera d'expulsion du lieu. » C'est mal écrit en plus, hein. Mais cette faculté est rarement mise en œuvre. Ah bon. Car le préfet le sait, il doit proposer un hébergement à des personnes qui vivent dans des conditions aussi précaires, selon les règles de droit. Alors quand même, j'ai mené ma petite enquête. Et quand même, cette journaliste, elle débarque pas de nulle part, elle était quand même avocate de 1992 à 2000. Alors c'est quand même bizarre de se tromper comme ça, car quand même, on constate quand même beaucoup plus souvent dans les situations de squats que des squats se font expulser alors qu'ils étaient là depuis plus de 48 heures. Et le préfet ne les avait pas relogés. Mais d'ailleurs, il n'est pas non plus dans l'obligation de reloger les gens quand ils les expulsent, quand ils sont dans des squats depuis moins de 48 heures. L'hébergement est certes considéré comme un droit fondamental, mais pour faire valoir ce droit, c'était le référé liberté dont on parlait tout à l'heure, il faut remplir des conditions très strictes, du style, si la veille du procès, vous avez dormi chez quelqu'un sur son tapis, le juge donne raison à la préfecture et décide qu'il n'y a pas un caractère d'urgence. Donc voilà, ça c'est le laxisme de la justice dont parle Sophie Majou.
Les spécificités des tapis aussi dans le code pénal.
C'est ça, non, faut faire gaffe quand même. Le droit c'est quelque chose de précis, on ne doit pas rigoler avec. Et par contre, bah, on va continuer sur des gros comment on dit là,
clichés.
Ouais, clichés ou des grosses approximations. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'à la fin de l'article, elle nous dit, là je cite encore, depuis l'arrivée de François Hollande, les familles ne sont plus astreintes à résider dans les centres de rétention administrative, mais assignées à résidence dans leur logement. Si le jour du départ forcé, un enfant manque à l'appel, la famille n'est pas au complet et inexpulsable. Ça, c'est à peu près le seul truc vrai qu'elle a dit. Des personnes dont certaines rejoignent ensuite les squats et campements. Bon, alors là, c'est, on sait pas comment elle a fait ce lien, mais bon. Alors voilà, c'est, effectivement, ça fait partie des promesses de François Hollande, qu'il n'y ait plus d'enfants en centre de rétention. Mais bon, on sait quand même qu'il n'est pas complètement appliqué, surtout quand les personnes n'ont pas de résidence officielle, en l'occurrence les personnes dont elle parle dans son article. Et de toute façon, quand même, la majeure partie du temps, pour les familles roms, la police distribue des OQTF dans les squats, et le jour de l'expulsion du squat, en profite pour revenir avec des cars affrétés par forum réfugiés, et expulse tout le monde de France. Voilà, du coup, c'est quand même comme ça que ça se passe la plupart du temps, et pas comme elle le dit plus haut. Et par contre, si on pouvait du coup se permettre un tout petit conseil à Sophie Majou et au Progrès, il manque une seule chose sur sa carte, c'est les conseils pratiques pour attaquer de la meilleure manière qui se passe un squat. En tout cas, voilà, bah, après un article comme ça, si un autre squat crame, on pourra sérieusement se dire que le progrès n'y est pas pour rien.
À 15h, il y avait un rassemblement à Jean Massé appelé par les travailleuses du sexe qui ont écrit un texte pour cette occasion que je vais vous lire, qui dit « Nous, travailleuses du sexe de Gerland, nous sommes ici pour défendre nos droits. Nous ne sommes pas des délinquantes. La police nous traite comme des délinquantes, comme des criminels ou des assassins, alors que nous ne faisons de mal à personne. Ils utilisent des hélicoptères, des chiens et des armes pour poursuivre les prostituées. Ils viennent 5 fois par semaine pour nous contrôler, prendre notre argent par des PV et emmener nos camionnettes à la fourrière. S'il y a un problème et que nous appelons la police comme n'importe quel citoyen, ils ne viennent pas. La question est la suivante. La loi vaut-elle pour quelques-uns et pas pour d'autres? Ils disent qu'ils ne veulent plus de prostitution. Dans ce cas, pourquoi ne prennent-ils pas nos fourgons définitivement et ne nous payent-ils pas un dédommagement? Ce sont des hypocrites. Nous préférons encore payer un quota fixe, annuel, mensuel ou hebdomadaire pour qu'ils nous laissent en paix. Nous payons pour nos fourgons l'assurance, le contrôle technique et la carte grise. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de stationner? Si nous n'avons pas le droit de nous garer là, pourquoi ne nous disent-ils pas où nous pouvons aller pour ne déranger personne? La fourrière et la police sont des proxénètes. Nous travaillons, ils prennent l'argent. Nous travaillons pour donner à manger à nos enfants. Nous avons besoin de ce travail. Nous exigeons qu'ils nous laissent en paix et qu'ils nous donnent la possibilité d'exister. Nous exigeons qu'ils arrêtent de nous traiter avec indifférence et mépris. Nous exigeons le respect. Nous exigeons que la police reste loin de nous, à moins que nous ayons un problème et que ce soit nous qui l'appelions. Voilà, donc cette manifestation, elle a été soutenue par différentes associations et on y était et on a pu interviewer quelques personnes.
On est réunis aujourd'hui à l'appel des femmes prostituées de Gerland pour dénoncer le harcèlement policier, la répression qu'elles subissent depuis maintenant 2 mois et demi, qu'elles subissent depuis beaucoup plus longtemps, mais avec une grosse pression depuis 2 mois et demi, avec des mises en fourrière quasi quotidiennes, avec des tonnes et des tonnes de PV par semaine, et qui implique beaucoup de choses, un non-respect de leurs droits. La prostitution, rappelons-le, n'est pas interdite, et sauf qu'on les empêche clairement de travailler et on les pénalise parce qu'elles se prostituent. C'est aussi les mettre dans une précarité qui est énorme, parce que plus il y a des opérations de police, moins il y a de clients, et plus il y a des opérations de police, plus elles ont à payer pour retirer leur camionnette et pour payer les PV qu'elles reçoivent quotidiennement, et du coup elles ne savent pas vraiment comment elles peuvent s'en sortir. La plupart des personnes là sont en train de travailler à perte. Quand elles se font enlever leur camionnette, pour la plupart c'est l'endroit où elles dorment quand elles sont à Lyon, parce qu'elles viennent de l'extérieur de Lyon, du coup elles se retrouvent à la rue en pleine nuit avec des opérations qui peuvent intervenir à 1h du matin, et du coup pour dénoncer tout ça. Et du coup cette manifestation, elle est soutenue d'un point de vue logistique par Cabiria, qui les a aidés à mettre en place concrètement la manifestation, et elle est soutenue aussi par des tonnes d'assauts, notamment le planning familial, Médecins du Monde, et des assauts de lutte contre le sida, ACT UP, entre autres, par le STRAS bien évidemment, le syndicat du travail sexuel, et également par des collectifs, des assauts de santé communautaire parisiennes et toulousaines, donc les Elidis et les Amis du Bus des Femmes, et aussi par des assauts de travailleuses du sexe au niveau international.
Le Parti Socialiste avait parlé à un moment de dépénaliser le racolage, d'enlever cette loi. Du coup, on aurait pu penser à ce moment-là que les conditions de travail allaient s'améliorer. C'est pas le cas.
Le Parti Socialiste est en passe de tenir cette promesse. Sauf que ça fait un peu 10 ans qu'on demande à ce que ce soit enlevé, que le Parti Socialiste nous dit que c'est pas le moment parce que il n'y avait pas la majorité à l'Assemblée, au Sénat, etc. Maintenant, ils ont la majorité partout. Au Sénat, c'est passé. À l'Assemblée, c'est toujours pas en discussion. Du coup, le racolage est en passe d'être abrogé, sauf qu'il est toujours en place et que depuis 2 mois et demi. Dans le quartier de Gerland, on voit que les personnes qui travaillent en camionnette, les policiers leur demandent de signer des papiers qui reconnaissent qu'elles ont racolé, donc ce qui est nouveau. Et dans le quartier de Perrache notamment, où les femmes travaillent à pied, il y a des tonnes d'arrestations pour racolage, d'arrestations qui se concrétisent au final souvent par des rappels à la loi, pas des procès, mais qui... le racolage, il est ultra utilisé en ce moment par les services de police, juste avant que ça disparaisse. Il n'y a aucune amélioration des conditions de travail. Et avec aussi le PS qui veut aussi faire un transfert de charge pénale des personnes prostituées aux clients, en pénalisant les clients. Ils en parlent. L'UMP est d'accord, bien évidemment. Ils en parlent et on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont nous pondre ce texte, mais... A priori, ça devrait arriver d'ici l'automne.
Remplacer la loi sur le racolage, du coup.
Oui, parce que ce serait dommage quand même de... Alors après, il y a aussi des députés EPS et UMP qui disent qu'il ne faut pas enlever la loi sur le racolage tant qu'il n'y a pas au moins un an de pénalisation des clients pour voir si vraiment la pénalisation des clients c'est plus efficace. Alors à ce moment-là, on enlèvera le racolage, mais sinon, il faut le laisser. En gros, les arguments officiels, c'est... Les prostituées sont des victimes, il faut arrêter de les pénaliser. En même temps, on va quand même continuer de les pénaliser, en attendant de pénaliser les vrais responsables qui sont les clients, parce que faudrait pas qu'on s'enlève ce pouvoir-là. Il faut bien pénaliser quelqu'un au final.
Du côté PS comme du côté UMP, la dépénalisation totale, c'est toujours pas pensé.
Non, c'est pas pensé du tout, non. Je pense qu'il n'y a aucune volonté à ce que ce soit pensé. Alors après, il y a quelques voix qui s'élèvent, et notamment dans les rangs de l'UMP, pour dire qu'il faut réouvrir les maisons closes. Les maisons closes, les personnes prostituées n'en veulent pas. Les associations qui soutiennent les personnes prostituées, notamment les associations de santé communautaire et de lutte contre le sida, n'en veulent pas non plus, parce que ça, une maison close, ça veut dire un patron. Ça veut dire un patron qui décide des prestations sexuelles et des tarifs, et qui prend de l'argent. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui décide pour les femmes les prestations sexuelles, il y a toujours le risque que pour gagner plus d'argent, on estime que les prestations sexuelles doivent se passer de manière non protégée. Et visiblement, les échos qu'on a un peu sur certains bordels en Allemagne, c'est que même si les relations non protégées sont pas obligatoires, c'est la norme, parce que de fait, il faut rapporter de l'argent et au patron. Et du coup, pour que les personnes qui travaillent puissent avoir un peu d'argent, il faut qu'elles fassent beaucoup d'argent et du coup, il faut qu'elles acceptent des rapports non protégés.
Impunité et dépôt de plainte difficile en cas de viol, d'agression, de harcèlement et de vol. Risque d'expulsion pour les migrantes ou de perte de la garde de leurs enfants quand elles dénoncent ces violences. Les lois répressives entraînent l'éloignement du centre-ville, ce qui cause une exposition plus grande aux violences et réduit l'accès aux soins et à la prévention. Le planning familial se positionne contre la loi de pénalisation des clients, contre les lois spécifiques, pour l'abrogation de la loi sécurité intérieure qui discrimine et pour l'application du droit commun, pour des lois moins répressives et pour plus de droits pour les migrants. Nous nous associons aux dénonciations des groupes associations de personnes prostituées par rapport aux arrêtés municipaux et à la répression inadmissible de la police. La prostitution n'est pas illégale, ni victime ni délinquante, soutien total aux personnes prostituées.
Travailler parce qu'on a de la famille, nous ne sommes pas des prostituées, nous sommes des pauvres femmes pour nourrir nos familles.
Non, mais après, sur les revendications particulières, c'est décriminalisation totale du travail du sexe, que ce soit pour les personnes prostituées et les clients, et que dès qu'il y a un problème qui concerne les personnes prostituées, sur la place où elles sont, sur les horaires où elles travaillent, etc., il faut qu'autour de la table, qu'il y ait des discussions au préalable toutes, qui est avant toute mesure qui soit prise, il faut qu'il y ait une concertation avec les premières concernées, c'est-à-dire les personnes prostituées et les habitants des quartiers ou les entreprises à qui ça pose problème. Avant qu'il y ait des mesures telles que les arrêtés municipaux qui ne servent à rien.
Alors, il y avait donc plusieurs associations qui étaient là en soutien, donc Abiria, le Stras, le Planning Familial et d'autres associations qui ont elles aussi écrit un communiqué que je vais vous lire, qui dit donc... Nous, professionnels de santé et du social impliqués dans la lutte contre le VIH et dans la santé globale à Lyon, nous avons eu connaissance de la mise en place, depuis le 19 mars 2013, de contrôles, verbalisations et arrestations régulières de personnes qui se prostituent à Lyon, dans le quartier de Jarin. Nous tenons à rappeler notre soutien total à toutes les démarches permettant le démantèlement de réseaux de proxénétisme, de contraintes et de traite des êtres humains. Cependant, l'encerclement policier du quartier de Jarin à 1h du matin, le contrôle systématique des papiers des personnes présentes dans cet espace, prostituées, associatifs, clients, la verbalisation pour délit de racolage, l'arrestation des personnes étrangères sans titre de séjour, la mise en fourrière des véhicules, arrêtés anti-stationnement dans ce périmètre, au rythme de 3 fois par semaine depuis 2 mois, nous paraît plutôt relever de l'acharnement contre un public jugé indésirable, frappé d'illégitimité sociale. Cette façon de maintenir l'ordre public est en contradiction avec la politique de santé publique et de lutte contre le VIH. Comme le rappelle le rapport de l'IGAS 2012 sur le commerce du sexe, ce public jugé indésirable n'en reste pas moins un public fragilisé par un cumul de risques liés à l'activité, à la précarité, à l'insécurité du statut de sans-papier, à la présence dans la rue. Exposition aux violences, addictions, troubles mentaux, mais aussi tuberculose et infections sexuellement transmissibles comme le VIH et les hépatites. D'autre part, nous aimerions rappeler que la prostitution n'est pas interdite en France. Ces contrôles et arrestations répétés entretiennent l'idée que la prostitution est illégale auprès des personnes qui l'exercent et les éloignent par peur d'être pénalisées des institutions et des structures qui leur permettraient d'accéder à leurs droits sociaux et à des soins. Cela menace également le travail des associations, essentielles pour franchir la barrière linguistique et celle de la connaissance des droits. Enfin, cela oblige les personnes qui se prostituent à se déplacer hors agglomération dans des zones désertées où elles se retrouvent très isolées en cas d'agression et où les associations de terrain ont toujours plus de difficultés à les rencontrer et à distribuer le matériel de réduction des risques. Il devient insoutenable pour nous, soignants, de cautionner une politique municipale qui renforce la stigmatisation des personnes les plus marginalisées et les expose à de plus grandes violences encore que celles de la pauvreté, de la vie dans la rue et de l'absence de droits sociaux. C'est un danger pour la santé des personnes et pour la santé publique. En conséquence, nous demandons à la municipalité d'interrompre cette politique de répression massive et d'ouvrir des négociations avec les riverains, les personnes qui se prostituent et les associations qui les représentent.
Voilà, on va faire une petite pause musicale maintenant, un flashback dans les années 90 avec le groupe lyonnais Bastard et un morceau qui veut dire « c'est pas drôle du tout ». We'll be right back.
Et ben, c'est l'heure de Faut que ça sache, un petit générique.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dégueule les lois mises en place. Dégueule les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Et on commence, Faut que ça sache, à Saint-Étienne avec le collectif Pour que personne ne dorme à la rue. Collectif dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est relativement, enfin même largement actif sur la question du logement et du logement des personnes migrantes avant tout. Qui décrète une alerte générale. Il y avait une réunion ce soir à 18h à la Bourse du Travail de Saint-Thé. Et cette réunion concerne l'organisation d'un rassemblement qui est appelé un rassemblement de protestation et de soutien qui aura lieu vendredi prochain, vendredi 31 mai à 15h devant la préfecture. En fait, il y a des assos, des collectifs, des syndicats, des parents d'élèves et simplement des individus sensibles au sort réservé aux demandeurs d'emploi dans le département de la Loire. C'est-à-dire qu'ils sont brutalement chassés de leur logement ou systématiquement laissés à la rue pour les nouveaux arrivants, qui ont décidé de se réunir du coup aujourd'hui pour préparer tout ça. L'objectif de cette réu, c'est d'essayer de mettre fin à cette politique et de contraindre les autorités à offrir un logement digne à toutes les personnes qui en ont besoin. Ce collectif large appelle à une grande manif, donc décidée, je vous le répète, vendredi 31 mai à 15h devant la préfecture de la Loire.
Il faut que ça se sache.
Et on va au Maroc à présent. Au Maroc, où des migrants ont occupé hier l'ambassade du Sénégal et ont affronté la police. C'était à Rabat. Une centaine de migrants d'origine sénégalaise a occupé durant 3 heures leur ambassade pour protester contre l'acharnement de la police marocaine. L'ambassadeur n'a pas hésité à laisser entrer les flics marocains dans l'ambassade pour les expulser. Durant 1 heure, tout de même, les migrants ne se sont pas laissés faire et ont affronté les keufs. Il y a un d'eux qui a flic qui s'est fait blesser et qui a été évacué en ambulance. Les migrants ont réussi à fuir par les résidences voisines et toutes les ruelles, sauf 2 qui auraient été arrêtés. Selon les assos sur place, il y a entre 20 000 et 25 000 clandestins qui tentent de rejoindre l'Europe depuis le Maroc, soit par la mer, soit par les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. L'enclave de Melilla, on en avait parlé il y a quelques temps, puisque du coup il y avait eu de grosses afflux de personnes qui avaient réussi à défoncer les grillages, déjouer les systèmes de surveillance et qui avaient réussi à passer un pied en Europe.
Il faut que ça se sache.
Et à nouveau, on va faire un petit retour sur un sujet dont, si vous êtes assidus, vous vous souviendrez sans doute. On va parler du 9e collectif, le 9e collectif de sans-papiers à Paris. C'est un hyper vieux collectif qui se bouge à fond depuis très 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 longtemps sur toutes les questions qui concernent la migration, toutes les lois par rapport aux sans-papiers, etc., etc. Et on en avait parlé parce que il se faisait complètement brimé, on pourrait dire ça comme ça, par la préfecture et aussi un peu des directives qui venaient directement de Manuel Valls. Alors là, ça s'est passé dimanche 26 mai et pour la 11e fois depuis le début de l'ère Hollande, le 9e collectif de sans-papes a manifesté à Bastille, à proximité justement du domicile de Manuel Valls, parce que là, on peut le balancer, il habite rue de la Roquette, entre le Père Lachaise et la Bastille, mais plutôt après la place Voltaire, si vous avez vraiment besoin de précision. Du coup, il faisait cette manif contre la politique menée contre les sans-papiers et la nouvelle circulaire pour le respect du droit de manifester et pour la régularisation de tous les sans-papiers. Et pourquoi cette manif aussi? Eh bien, pour protester contre le blocage des dossiers par le préfet de police Bernard Boucaud. C'est-à-dire qu'il voulait dénoncer ce blocage de dossiers par le préfet. Le durcissement des conditions de régularisation qui est intervenu depuis plusieurs mois du fait de la nouvelle circulaire Valls, justement, qui est particulièrement restrictive et dont l'application est encore pire, surtout à Paris, car ce fameux préfet Boucaud bloque tous les dossiers de régularisation, y compris pour des sans-papiers qui remplissent parfaitement les conditions déjà extrêmement difficiles qui sont imposées par la circulaire. Et alors on peut s'étonner un petit peu du pourquoi de ce thème de respect du droit de manifester. Eh bien, justement, dans ce pays démocrate qu'est la France, c'est bizarre, hein ? Eh bien, la réponse en image, comme on dit, puisque la manifestation, qui était déclarée 3 jours à l'avance, comme il faut, etc., patati patata, a, comme d'habitude, c'est-à-dire, c'est la 10e fois sur 11 manifs, été encerclée directement autour de la sortie du métro. Tous les manifestants étaient bloqués et pouvaient pas accéder à la place de la Bastille. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, samedi 18 mai ? Non content, cette fois, d'encercler les sans-papiers à la sortie du métro, eh bien, les gendarmes avaient directement embarqué la plupart des manifestants, qui pourtant étaient en mode manif tranquille, hein, et ils ont été promenés en totale illégalité dans des cars de la gendarmerie pendant 1h30, 2h, sans descendre des fourgons, sans contrôle d'identité, avant d'être amenés sur le lieu de la manifestation, mais c'était fini. C'est donc vraiment simplement pour empêcher la manif et démotiver les acharnés, puisque du coup, ils lâchent pas l'affaire et ils manifestent devant la maison de Valls depuis pas mal de temps maintenant, je sais plus exactement combien. Et en tout cas, du coup, cette démotivation cherchée, c'est raté, puisque le 9e collectif appelle à une prochaine manifestation samedi 1er juin à 14h30 à Bastille, sortie du métro rue La Roquette. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur le site internet 9emcollectif.net, alors c'est un 9 en chiffres emcollectif.net, ou les contacter 9em-collectif@nolog.org.
Maintenant, un petit texte qu'on a trouvé sur... On m'entend, quoi ? Ah ouais. Un petit texte qu'on a trouvé sur le site La Voix des Roms sur les effets pervers de la circulaire du 26 août 2012, c'est donc de l'été dernier. Environ 200 Roms ont été expulsés hier matin à Saint-Denis, porte de Paris, et il risque d'y avoir 200 autres demain, il me semble. Dans la soirée, après une manifestation devant la sous-préfecture et la mairie, la préfecture du département a dit pouvoir répondre par des hébergements à l'hôtel pour seulement 3 familles et 2 adultes malades. Une circulaire du 26 août 2012, ouvrez les guillemets, relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites, invite les préfectures à mener des diagnostics sociaux afin de répondre globalement à chaque situation lorsqu'un bidonville est expulsé, et ceci le plus en amont possible. Donc ça, c'est une circulaire Valls de l'été dernier pour les préfets, pour que, avant d'expulser des gens, quand même, ils prennent en compte leur situation, ils essaient de trouver des solutions. En pratique, et ça s'est confirmé une fois de plus pour l'expulsion d'hier, la fameuse réponse consiste en un hébergement à l'hôtel pour quelques nuits et pour quelques personnes. Pour le groupe de familles expulsé hier, la préfecture dit qu'un tel hébergement a été proposé pendant le diagnostic social réalisé par GIP Habitat, donc GIP c'est Groupement d'intérêt public, il y a quelques semaines. Donc l'hébergement à l'hôtel avait été proposé avant l'expulsion, mais que personne n'avait demandé à profiter de l'hébergement en question. Et pour cause, dit la Voix des Roms, pourquoi demander à aller dans un hôtel dont on ne sait pas au moment où on vous le propose où il se situe, mais on peut quand même être persuadé qu'il sera loin, voire très loin. On sait qu'on ne pourra pas y cuisiner, on sait qu'il faudra prendre ses repères autour et qu'on n'y sera pas plus de quelques nuits. Alors qu'au même moment, on a, du coup, en l'occurrence, comme il s'agit de campement, on a une baraque qu'on a construite soi-même dans une ville qu'on connaît et où on se sent chez soi et où, en l'occurrence, on peut par exemple cuisiner. On n'est pas obligé de se barrer à certaines heures de la journée, etc., etc. En plus, enfin, assez régulièrement, les enfants vont à l'école. Par exemple, l'hôtel peut être situé des fois à des heures de trajet de l'école. Et la Voix des Roms continue, cet événement, comme d'autres, pose la question de cette fameuse circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites. À quoi sert-elle cette circulaire en réalité ? D'abord, elle a servi à rassurer la Commission européenne, qui avait l'été dernier quand même, encore une fois, mis sous surveillance la France, lorsque Manuel Valls a déclaré vouloir poursuivre le démantèlement des campements illicites. Donc, terminologie qui avait été créée par Brice Hortefeux en 2010 et que Valls avait repris à son compte. Hein. Enfin, tout à l'heure, j'avais Courrier International, je fais une toute petite parenthèse. Et là, il y avait une page où il y avait des articles et des dessins de caricatures de l'Europe entière. Je veux dire, de journaux, pas de journaux spécialement ultra-gauche, hein, mais de journaux européens.
Païs, etc.
Ouais, c'est ça. Qui tous disaient que, en gros, Sarkozy-François Hollande, c'était vraiment exactement la même chose, qu'il n'y avait aucune différence à voir. Il y avait une petite caricature là qui était d'un peut-être bien de El País où on voyait François Hollande comme ça et l'ombre faite par le soleil, l'ombre portée était l'ombre de Sarkozy. Enfin, bref, continuons sur Manuel Valls qui récupère les. Ben c'est ça, mais du coup là on n'est pas vraiment les seuls à le dire quoi. Sur Manuel Valls qui récupère donc la terminologie de Brice Hortefeux. Et sur sa circulaire, et donc la voix des Roms dit qu'avec cette circulaire assez vague, le gouvernement français montre à la Commission européenne que sa politique respecte la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Commission européenne sera-t-elle dupe, demande la voix des Roms. Eh ben, il y a des chances que oui. Ensuite, la circulaire permet de continuer la politique menée depuis longtemps en la matière. Cette politique qui combine démagogie tiganophobe, et gaspillage de l'argent public. Alors là, deuxième petite parenthèse, j'étais à Marseille le week-end dernier.
Vas-y, raconte-nous ta vie encore.
Samedi matin, il y avait quand même une manifestation dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille, manifestation organisée par un collectif d'associations, soutenu par les mairies des 13e et 14e arrondissements, manifestation pour demander l'évacuation des campements illicites de Rome. Il faut dire que la maire du 13e ou du 14e arrondissement, c'est la même qui avait déjà justifié, il y a 6 mois, 1 an, quand des habitants d'un quartier étaient allés virer eux-mêmes les Roms. Elle avait dit que c'était bien, qu'elle les comprenait, mais quelques jours avant la manifestation, et en fait juste avant l'organisation de la manifestation, elle a été condamnée à, me semble-t-il, 3 ans de prison avec sursis pour détournement d'argent public. Autant dire que de remettre un peu l'accent médiatique de son arrondissement sur les Roms, ça pouvait peut-être lui rendre un petit service.
Léger service.
Léger. Donc, depuis plus d'un an, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, persiste à créer des tensions en répétant à l'envi que les riverains de ces campements illicites, qui se situent dans des quartiers populaires, c'est toujours les mots de Valls, hein, sont exaspérés et excédés. Donc, en l'occurrence, 13e, 14e arrondissement de Marseille, ça marche. Il cite en exemple de cette exaspération des incendies dont précisément la police n'a jamais pu établir la cause. C'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur, non mais quand même, hein, un ministre de l'Intérieur parle d'incendies dont il sous-entend lourdement qu'ils sont criminels, et à ce moment-là, lui, ministre de l'Intérieur, chef de tous les flics, tout ça, là, ne parle pas d'aller arrêter les gens qui ont allumé le feu, hein, de les chercher sérieusement, parce que ça n'a juste jamais été fait, quoi. Si la police n'a jamais pu établir la cause des incendies, c'est parce qu'ils en ont rien à foutre. Et donc, lui, ministre de l'Intérieur, ne se dit pas, tiens, il faudrait peut-être savoir si c'est des incendies criminels, peut-être trouver les gens qui les ont allumés, peut-être les arrêter, les condamner, je sais pas, il est ministre de l'Intérieur.
Il peut au moins faire semblant de faire bonne figure.
C'est ça. Eh ben non. Lui, il dit plutôt qu'il faudrait faire dégager les victimes, moyennant quoi, il y aura plus de criminalité. Ce qui est aussi une sorte de raisonnement d'ordre public logique d'un côté. En même temps, c'est pas exactement celui qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que pour n'importe quel autre type de criminalité, c'est pas forcément celui qu'il aurait tenu.
Ça dépend. C'est vrai que s'il disait ça, par exemple, après un hold-up de banque et qu'il faudrait virer toutes les banques du territoire pour supprimer la tentation,
je pense qu'on pourrait dire. Ça pourrait être cool.
C'est plus sympathique.
Mais. D'un côté, ça rappelle quand même vraiment l'argumentation les plus réactes sur des histoires de viol. Là, c'est si les femmes elles s'habillent décemment, elles seront plus violées. Et voilà quoi. Et ben si les Roms ils arrêtaient d'être pauvres, on arrêterait de faire cramer leur campement. Bon bref. La police n'a jamais pu établir la cause, je reprends ma lecture. Dans les rues, dans les magasins, partout, le rejet raciste des Roms est de plus en plus palpable, nourri par ce type de discours. En plus du racisme qui la sous-tend et qu'en même temps elle suscite, cette politique est désastreuse financièrement parlant. Manuel Valls se vante d'avoir supprimé l'aide au retour humanitaire qui avait selon lui des effets pervers et qui en fait était perverse dans les raisons qui ont mené à sa création. Il ne faut en effet pas oublier que les premiers demandeurs de cette aide à l'époque, signaient la demande souvent dans des autocars qui étaient affrétés par l'État pour partir vers Bucarest. Donc on les a d'abord montés dans le car, après on les faisait signer, sous la menace, s'ils refusaient de signer, de passer quelques jours, voire quelques semaines en centre de rétention et d'être finalement expulsés quand même en avion sans les 300 euros proposés. Autre gouvernement, autre temps, autre méthode. Maintenant, c'est il faut consommer en France et français avant tout. Parce qu'avant, les 300 euros, les gens, ils les mettaient dans la poche et ils allaient les dépenser où ? En Roumanie. Y compris les 100 euros qui étaient dédiés au retour en France en autocar. Puisque donc, ils revenaient. Et bien, désormais, l'argent français est bien dépensé en France. Il va aux caisses des opérateurs de l'État chargés de faire les diagnostics sociaux, et aux hôteliers qui hébergeront pendant 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, quelques Roms expulsés de leurs habitations. Dans le département de la Haute-Seine, donc qui est l'un des moins chers pour ces histoires de nuit à l'hôtel, le tarif pratiqué par les hôteliers pour l'hébergement d'urgence est de 37 euros par personne et par nuit, soit quand même bien plus cher que les prix pratiqués pour n'importe qui d'autre. Et généralement, les prix sont fixés non pas par personne, mais par chambre. Mais là, en l'occurrence, c'est 37 euros par personne et par nuit. L'hébergement à l'hôtel est une mise à l'abri toujours provisoire. Généralement, il est maintenu pour 2 ou 3 nuits, nous dit la Voix des Roms. Et donc, on termine avec un petit paragraphe plus vénère. La France devrait avoir honte de ceux qui la dirigent. Et ce n'est certainement pas les Roms qui sont responsables. Ils ne sont qu'une carte avec laquelle les autorités et leurs alliés jouent un sale jeu de poker où les enjeux sont complètement étrangers aux Roms. Il y a d'autres cartes dans ce sale jeu, les mal logés, les chômeurs, les sans-papiers. Le jour où ces cartes deviendront des joueurs, ils pourront casser le jeu et construire le vivre ensemble.
Voilà, une nouvelle pause musicale avec Carole Kim, des extraits de la compil Saigon Rock and Soul, et après on finit avec ce Canu Info.
Chăm em cài là do tình nhân em biêu đó, trốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về. Cái chăm em cài là muôn tình thương nỗi nhớ, nhớ nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng thương em. Cái chăm em cài bằng chi nào em đâu biết, ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng, ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng san trôi. Cúp của quân tù làm một ngày gửi về cho em. Ai nhớ ai phải chăm em cài để làm tin tình của mình đó. Chăm hỡi chăm mày làm sao nhớ 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 thương tình nhân. Cái chăm em cài là do tình nhân em biếu đó. Đáng chi đâu nào một viên đạn đồng. Sau đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ 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 người nhân tình đã thề nguyện cùng mình sẽ duyên. We'll be right back.
tình nhân em biếu đó, chốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về. Cái chăm em cài là muôn tình thua nỗi nhớ, nhớ nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng thương em. Cái chăm em cài bằng chi nào em đâu biết, ấy anh đã làm bằng kim bằng viên đạn đồng, ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng san trôi. Quân thù làm một ngày gửi về cho em. Ai nhớ ai, cái chăm em cài để làm tin tình của mình đó. Chăm hỡi chăm, nay làm sao nhớ 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 thương tình nhân. Cái chăm em cài là do tình nhân em biếu đó. Đang chi đâu nào một tin đạn đồng. Đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ, nhớ nhớ người nhưng tình ta cùng nguyện cùng mình sẽ duyên.
Nous arrivons à la fin de ce Canu Info et c'est l'heure de notre météo. Et j'arrive aujourd'hui, pas seulement avec des mauvaises nouvelles. Mais juste avant, je voudrais faire une petite dédicace au braqueur.
Toi, tu dis juste que t'as pas de mauvaises nouvelles pour qu'on te laisse rentrer dans le studio, en fait. C'est parce qu'on te laisse rentrer toutes les semaines.
Ouais, on t'a trop pourri ces derniers temps.
Non. Tu nous annonces de la merde, quoi.
En vrai, j'avais décidé, avant de me dire, là, de ne pas en faire jusqu'au retour du beau temps. Du coup, le fait que je sois là, vous pouvez penser que c'est quand même peut-être une bonne nouvelle. Hein. Peut-être que j'en se trompe.
Parce que toi, tu sais que Joël Collado, maintenant, il a 3 gardes du corps.
Mais en tout cas, eh ben, des malfaiteurs comme ça, des braqueurs, ils ont eu l'intuition. Ils sont allés braquer. Où est-ce qu'ils sont allés faire ça? À Pont de Beauvoisin, en Savoie. Un magasin de Optique 2000 pour aller braquer 306 paires de lunettes de soleil. Et franchement, si c'est pas.
Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire?
Et ben,
c'est un pari sur l'avenir.
Ouais, exactement. Franchement, c'est
quand
un sacré investissement.
Quand on a quitté l'hiver, ça va marcher.
Ouais, c'est ça. Au premier rayon de soleil, là, les gens, c'est comme quand tu sors d'un tunnel avec ta voiture. C'est pareil. Après, t'es ébloui. Revenons à nos flaques d'eau. Un petit bilan de ce mois de mai qui va bientôt se conclure. Cette année, en 2013, le mois de mai a vu 166 mm de pluie. Alors, pour des petites références comme ça, le seuil des 200 mm de pluie durant un mois de mai a été franchi à seulement 3 reprises. C'était en mai 1930, 206 mm de pluie était tombé. En mai 1872, 207 mm.
Oh putain, un an après la commune.
Et en mai. Ah, peut-être.
Toutes les mauvaises
signes révélateurs.
Comme ça.
Et en mai 1856, avec 255 mm. Voilà, tout le monde s'en fout, j'ai bien remarqué.
Oh putain, 100 ans.
Ah non, mais le passé, la météo du passé, c'est bien. La météo du passé, c'est bien, mais en vrai, c'est comme l'horoscope, celui d'avant-hier, il nous intéresse.
Et ben, c'est ça. L'été arrive, j'y viens.
Mais quand?
Moi aussi. Bon, alors c'est pas pour tout de suite, mais la fin de l'épisode pluvieux est prévue pour ce week-end, selon nos informations de Météo News.
Et moi j'ai entendu, il pleut encore tout le mois de juin.
Ce week-end inclus? Non mais tout
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, la question inclus. C'est au début du week-end ou à la fin du week-end?
Non, samedi inclus.
Inclus de mauvais temps?
Ouais.
Et dimanche?
Et dimanche, ça devrait s'améliorer.
On peut faire un barbecue, mais avec les fesses mouillées. Quoi.
Non, mais ouais, mais s'améliorer. Non, mais bien sûr, ça va pas être la canicule.
Ça va être quoi?
Bah, ça va être comme ça. Il y aura
il
des nuages.
Il va faire 11 degrés. Il y aura des nuages et du soleil. Mais il pleut pas.
En gros, le soleil reprendra sa place dans le ciel lyonnais et il pourrait bien y rester plusieurs jours.
Plusieurs jours, mais ils peuvent pas dire 3 mois parce que l'été, ils savent ce que c'est.
Les journées devraient même être de plus en plus ensoleillées et chaudes au fil de la semaine.
Devraient.
8-9 degrés.
Le produit, c'est pas comme toi, ils ont compris qu'il faut faire du conditionnel pour revendre des journaux parce que tout le monde.
Pour la pluie, je sais pas. Exclusivement pour la météo. Quand il s'agit d'accuser des gens, t'inquiète que ça. T'inquiète qu'il n'y a pas de conditionnel. Selon les prévisionnistes les plus célèbres de Météo News, le thermomètre pourrait même atteindre 27 degrés en début de semaine prochaine. Ça, j'y crois pas du tout. Ouais, 7 degrés.
Ne rêvez pas.
Ouais, ouais.
Moi, je pense qu'il va faire un peu plus de 20. Mais ça. Voilà, alors. On peut passer. Putain, il faut qu'on se dépêche un peu en plus. Ouais, on va finir par être en retard pour de vrai. Alors, la météo. Demain, il va y aura quelques. Ouais, parce que pour l'instant, ça va être pourri. Hein. Demain, il y aura quelques averses. Il fera 7 degrés le matin, 16 degrés l'après-midi. Le soleil fera son apparition de temps en temps.
Bonnet, mitaine, parapluie.
Vendredi, c'est la merde. Il fera entre 8 et 15 degrés. Le ciel sera gris. Et un peu de pluie aussi.
Boutine, samedi, parapluie.
Exactement. Samedi, rebelote entre 11 et 18 degrés avec de la pluie. Et dimanche, comme vous l'avez dit, sortez vos barbecues.
C'est l'agenda maintenant ?
Ouais. C'est l'agenda. Vendredi 31 mai à la Plume Noire, il y a un concert de soutien au local féministe. Le local féministe, il est situé dans le 3e arrondissement. C'est un local où les personnes se retrouvent pour faire, entre autres, des réunions, préparer des actions, entre autres, les marches de nuit, ou alors pour les très célèbres apéros du 13. Donc voilà, si vous voulez soutenir ce local, parce qu'il faut quand même un petit peu de sous pour payer le loyer, payer les factures, etc., etc., vous pouvez vous rendre à la Plume Noire vendredi soir, 31 mai. Il y a un concert en soutien à ce local féministe. La Plume Noire, c'est rue Diderot vers la place Colbert.
Nos camarades de l'émission suivante donneront l'adresse exacte.
Ils sont d'accord avec l'idée de vers la place Colbert.
Ah, c'est 8, je pense qu'ils sont d'accord aussi pour que les gens y aillent.
Ça y est, on a fini, mais je vais quand même encore donner cette information. Donc, il faut remonter il y a à peu près 3 semaines à Décines, à l'endroit du chantier pour le Grand Stade. 4 personnes se sont assises devant des bulldozers. Avec une guitare, donc des grands criminels. La police est intervenue au bout d'une heure. Il y a quand même un peu de laxisme dans ce pays. Ils sont intervenus, ils les ont embarqués, ils les ont menottés. Ils ont quand même pris les choses un petit peu au sérieux. Les 4 personnes ont fait 30 heures de garde à vue et ils passent en procès le 11 juin pour opposition à chantier d'utilité publique. Et puis pour 2 d'entre eux, pour port d'armes, parce qu'il se trouve qu'ils avaient sur eux un opinel pour casser la croûte.
Possession illégale de guitare sèche.
Ouais. Je crois, les chefs. Donc voilà, procès le 11 juin. On aura l'occasion de vous le redire mercredi prochain. Oui, puisque le 11 juin, c'est un mardi. Donc on aura l'occasion de vous en reparler mercredi prochain. Et il faut qu'on se grouille de laisser la place à Idée Noire. Ciao.
Bonne soirée.